Chers frères et sœurs, chers amis, je vous invite à écouter la lecture de la Bible, deux textes dans l'évangile de Matthieu. D'abord dans cette parabole du jugement dernier, le Fils de l'homme déclare ceci, c'est au chapitre 25, les versets 35 à 40, puis le verset 45. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir ? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous avez fait ceci à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Puis, un peu plus loin, au verset 45, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ceci à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et puis dans l'évangile de Matthieu, Jésus prie à Gethsémané, c'est au chapitre 26, les versets 36 à 38. Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané et il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors « Mon corps et mon cœur sont pleins d'une tristesse mortelle. Restez ici, éveillés avec moi. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous par cette lumière. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 214, les strophes 1, 2 et 3. Recueillons-nous dans la prière. Éternel, en cette heure, accorde-nous le silence. Non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de la peur des autres et du monde, mais celui qui me rend proche de tout homme et de la création, non pas celui de l'égoïsme froid, indifférent et hautain, mais celui qui enracine, fortifie et purifie la tendresse du cœur, non pas le silence de l'absence, vide, du monologue solitaire, mais celui de la rencontre, de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la nuit et du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore et de l'espérance. Non pas le silence du bavard rempli de mots, de lui-même, mais celui du cœur qui écoute le murmure de ton esprit et qui éclaire pour nous ta parole. Chers frères et sœurs, chers amis, pour cette dernière prédication, et c'est moi qui l'ai choisie telle, je vous invite à reprendre le texte biblique auquel j'avais consacré ma première prédication de mon ministère pastoral. C'était le 26 mars 1964. Ici même, pour un jeudi saint. Et j'avais retenu ces trois mots de Jésus que nous avons entendus tout à l'heure. Il les adresse à quelques disciples. Veillez avec moi. J'aimerais, dans cette prédication, récapituler quelques-uns des thèmes qui ont nourri ma prédication depuis plus de 50 ans. Rappelez-vous le récit de la tempête apaisée par Jésus sur le lac de Tibériade. Jésus dort dans la barque et les disciples sont réveillés, terrorisés. Ils voient que leur embarcation va sombrer. Ils réveillent Jésus et lui disent: « Au secours, Seigneur, nous périssons. » Ici, à Gethsémané, mais c'est certainement voulu, c'est exactement l'inverse. Jésus est réveillé, et ce sont les disciples qui dorment et ne peuvent pas veiller avec lui. Jésus est porté là par la frêle embarcation de son humanité. Veillez avec moi. Ce qui frappe dans tous ces récits de la Passion, c'est entre autres cette humanité de Jésus. Jésus qui demande de l'aide, Jésus qui dit à ses disciples qu'il connaît une tristesse mortelle, Jésus dont les évangélistes nous déclarent qu'il vit l'angoisse et la frayeur, et même dans l'évangile de Luc, que des gouttes de sueur perlent sur son visage comme des gouttes de sang. Jésus sur la croix qui dira entre autres ces simples mots, « J'ai soif ». Et puis ce cri terrible, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri porte notre humanité souffrante, les victimes de la violence, de morts injustes, de toutes les croix de l'histoire. Que de fois des hommes et des femmes depuis 2000 ans ne se sont-ils pas adressés en vain à Dieu en lui disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le beau poème d'Alfred de Vigny, « Le mont des Oliviers », il y a cet alexandrin magnifique, mais le ciel reste noir et Dieu ne répond pas. Et puis cette humanité de Jésus, nous la trouvons comme annoncée ou comme, j'aimerais dire, comme préfigurée dans ces fameux deux mots de Pilate qui livre Jésus à la foule pour la crucifixion et qui dit « Eke homo, hidou o anthropos ». Voici l'homme, voici l'être humain. C'est ce « voici » qui me paraît si important et que l'on ne souligne peut-être pas assez. Jésus représente pour nous l'être humain devant nous, voici, et non pas derrière nous. Dans les récits de la résurrection, on nous dit de Jésus qu'il attend ses disciples, qu'il les précède en Galilée. Jésus nous précède dans toutes les Galilées de ce monde et dans toutes les Galilées de l'histoire. Ailleurs, quand Jésus monte de la Galilée pour aller à Jérusalem, il est écrit dans les évangiles, Jésus marchait devant eux. Jésus marchait devant la foule. Jésus est toujours en tête de notre caravane humaine. Jésus représente donc pour nous l'être humain. Il suffit de regarder en nous ou autour de nous pour savoir que l'homme n'est pas encore l'être humain. J'aimerais vous relire ce passage d'une prédication d'Albert Schweitzer. C'est une prédication qu'il a donnée le 6 janvier 1905 à Saint-Nicolas de Strasbourg. C'était dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 17, Jésus dit à des disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Alors Albert Schweitzer écrit, « Dans le premier commandement que le Seigneur donne sur terre, un seul mot se détache, le mot « homme ». Il ne parle pas de religion, de foi, de l'âme ou d'autre chose, mais uniquement des hommes. Venez et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est comme s'il disait aux générations à venir, pour commencer, vous allez tâcher que l'homme ne périsse pas. Suivez-le comme je l'ai suivi et rejoignez-le là où les autres ne le trouveraient plus, dans la boue, la bestialité, le mépris. Allez à lui et soutenez-le jusqu'à ce qu'il redevienne un homme. Et Albert Schweitzer d'ajouter, Jésus a soudé si étroitement l'une à l'autre religion et humanité qu'il n'y a plus de religion sans véritable humanité. Si l'homme n'est pas encore l'être humain en plénitude, il nous incombe de tout faire, de combattre pour le réaliser. Aller vers cet être humain, c'est aller vers Dieu. Et aller vers Dieu, croire en Dieu, c'est aller vers l'être humain. Théodore Monod, que j'aimais avec tous les pasteurs de l'oratoire, voir assis là en face de la chaire, Théodore Monod, l'homme du désert, écrit dans ses carnets, en parlant d'hominisation, c'est un mot qu'il emprunte aux paléontologues, le primate, l'aveut-il vraiment cette difficile, cette héroïque hominisation ? Est-il décidé à devenir un homme ? Et Théodore Monod d'ajouter, la civilisation véritable est une conquête permanente, quotidienne. C'est quelque chose que l'on tient à bout de bras, au prix d'un extrême effort, et qui, au premier signe de relâchement, s'effondre dans la sauvagerie la plus affreuse. Alors, et ce sera là la deuxième étape de cette prédication qui comportera trois moments. Veillez avec Jésus, veillez avec moi. Nous l'avons compris, c'est un combat, c'est une lutte dans un esprit très souvent de révolte. Et j'ai parfois cité, là encore, Alfred de Vigny dans un autre de ses poèmes, c'est la mort du loup, qu'il conclut par ces mots, « souffre et meurt sans parler ». Mais le christianisme n'est pas le stoïcisme. Nous n'accepterons pas des souffrances et des morts injustes sans parler, sans protester, sans lutter. Toute la vie de Jésus, d'ailleurs, est un combat contre le mal, contre les souffrances, contre la mort. Et Jésus réintègre les exclus dans la société, les prostituées, les collecteurs d'impôts et les péagers, les lépreux qui étaient parqués en dehors des cités parce que jugés impurs. Jésus donne la vie, il guérit. En lui se révèle ce dynamisme divin et créateur. Veillez avec le Christ, c'est à notre tour, à son exemple, assumer notre vocation créatrice. Dans le livre de la Genèse qui ouvre la Bible dans ce grand mythe très profond et poétique de la création, il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela ne veut-il pas dire largement que nous avons été créés créateurs ? Et Jésus semble confirmer quand il déclare « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Mais quiconque aurait soutenu cela, si ces mots ne se trouvaient pas dans l'Évangile et dans la bouche de Jésus, serait jugé complètement hérétique et blasphémateur. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Nous sommes très loin de toute une tradition chrétienne avec de telles paroles, insistant sur l'homme incapable de faire le bien, sur cet homme réduit au néant de sa condition mortelle et pécheresse. Non, ce n'est pas là une vision négative que nous avons. Nicolas Berdiaev, et vous ne serez pas surpris que je le cite encore une fois en ce jour. Nicolas Berdiaev écrit ceci: le christianisme est une religion, non seulement du salut, mais aussi de la création, une religion de la transfiguration du monde, de la résurrection universelle, de l'amour pour Dieu et pour l'homme. Et il ajoute, la création est divino-humaine. Elle est la révélation de l'amour débordant de l'homme pour Dieu, la réponse de l'homme à l'appel de Dieu, à l'attente divine. Veillez avec moi. Ces mots, nous les entendons dans la bouche de tant de malades, de victimes d'un deuil, souvent cruelles et injustes, de victimes de souffrances morales, affectives, de souffrances physiques parfois insurmontables, de souffrances professionnelles, je dirais même de souffrances intellectuelles, tant il est vrai que nous nous posons mille questions d'ordre religieux et théologique qui ne trouvent pas de réponse. Dans Matthieu 25, nous l'avons entendu, Jésus s'identifie à ses victimes dans un texte qui est d'une modernité incroyable, tout à fait contemporain. Il dit « J'ai eu faim et soif et vous m'avez nourri et désaltéré, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, malade, prisonnier, et vous m'avez visité. » N'est-ce pas là un appel pour nous dire, veillez avec moi, l'importance de la diaconie dans nos paroisses, des services de l'entraide. Jésus qui déclare, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour, dit-il. Et il n'ajoute rien à cela. Tout ce qu'on ajoute à l'amour, en quelque sorte, est en moins. C'est à l'amour, et non pas à des dogmes, à des doctrines, aussi magnifiques et grandioses seraient-ils. Ce n'est pas à des credos et à des confessions de foi, aussi justes, fidèles, rigoureux, orthodoxe serait-il. Ce n'est pas à des églises, quelle que soit leur importance. Alors je citerai aussi Wilfred Monod. Wilfred Monod a été pasteur de cette paroisse de 1907 à 1938. Pendant 30 ans, il a prêché dans cette chaire. Wilfred Monod, qui est le fondateur de ce centre social, la Clairière, en plein quartier des Halles, alors déshérité. Et Wilfred Monod déclarait dans une prédication, « Mieux vaudrait avoir vécu sans religion que d'avoir vécu sans amour. Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir, que d'avoir nommé Jésus-Christ, que de l'avoir même confessé et chanté. » Dans chaque numéro d'Évangile et Liberté se trouve un petit encadré où nous disons nos principes par fidélité au message évangélique. Et l'un de ces principes dit que nous affirmons la primauté de la foi sur les doctrines, d'une foi active, d'une foi vivante, d'une foi incarnée, parce que le protestantisme libéral est inséparable d'un christianisme pratique conjoignant à la fois un christianisme spirituel et un christianisme social. Les cultes, les rites, les doctrines séparent, nous le savons bien, les églises chrétiennes, les confessions chrétiennes. Mais l'amour du prochain, la pratique de cela peut nous réunir, quelle que soit l'église qui nous abrite, quelle que soit notre religion, et cela même, bien sûr, avec des incroyants, des agnostiques, de noms incroyables d'athées et de nobles douteurs, les hommes et les femmes de bonne volonté, comme on les appelle. Alors voyez-vous, et ce sera la transition, le trait d'union, entre cette deuxième étape et la troisième et dernière étape de ma prédication, il me semble que les évangiles sont marqués par un renversement. Donne-moi à boire. Ces mots sont symboliques, dit Jésus à une femme de Samarie. Alors que sans cesse, nous nous tournons, nous, vers Jésus pour lui dire, désaltère-nous. Le témoin de l'Apocalypse, et nous citons régulièrement cette affirmation à l'heure de la Sainte Cène, déclare « Je me tiens à la porte et je frappe ». C'est lui qui frappe à notre porte et c'est nous qui devons l'ouvrir, alors que sans cesse nous nous tournons vers les cieux, nous frappons à la porte des cieux pour dire à l'Éternel « Ouvre-nous ». Jésus déclare à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» alors que nous pensons que c'est lui qui devrait répondre à cela. Et puis là, veillez avec moi, alors que sans cesse, là aussi, nous nous tournons vers Jésus, nous nous tournons vers Dieu pour dire, veille avec nous. Et nous venons de le rappeler. Alors si en Jésus, nous croyons, et c'est ce que je crois, que nous entendons une parole divine, une parole que Dieu nous adresse et qui vient de lui, alors c'est Dieu qui nous dit « Veillez avec moi ». Mais ce Dieu-là est très loin de l'image d'une certaine toute-puissance de Dieu, perçue dans son isolement, son absoluité, son abstraction, un Dieu qui règne au-dessus de nous et sans nous. Il y a, en quelque sorte, une fragilité divine. Et Dieu n'est pas le tout-puissant que nous imaginons parfois. Et là encore, je cite Berdiaev qui disait que Dieu a moins de puissance qu'un simple soldat, qu'un gendarme ou qu'un banquier. Dieu est amour, affirme la première épître de Jean. L'amour peut ressembler à une forme de faiblesse dans un monde où la force n'est pas ce que Martin Luther King appelait la force d'aimer, mais la violence des armes, de l'argent, la raison du plus fort, l'écrasement aveugle des pauvres et des faibles. L'homme existe-t-il ? Nous avons répondu non dans la précédente étape de notre prédication, pas encore. Dieu existe-t-il ? Et là aussi, nous répondons pas encore. La fameuse théologie du process qui nous vient des USA avec pour principal responsable John Cobb, cette théologie qui procède un Dieu en devenir, qui postule ce Dieu en devenir. C'est cela que veut dire, entre autres, process, un Dieu en devenir. Eh bien, cette théologie n'a de sens, à mon avis, que si elle implique, et ce n'est pas toujours le cas, non pas seulement une théologie du process, mais une anthropologie du process, à savoir d'un être humain possible, d'un être humain en devenir lui aussi et à construire. Il dépend de nous très largement que Dieu se réalise en plénitude. Croire en Dieu, c'est vouloir que Dieu advienne, fait tout faire comme le dit Paul, pour que Dieu soit un jour tout en tous. Et Wilfred Monod encore disait de Dieu, il faut vouloir que toutes nos facultés deviennent les complices de son avènement, les alliés de sa cause. Mais voyez-vous, dans l'Évangile lui-même, il y a cette poignante interrogation de Jésus. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas là une question formelle et rhétorique. Elle admet un risque d'échec que reconnaît aussi d'ailleurs la théologie du process. Le futur pour Jésus est incertain. C'est là une question angoissée qui appelle, qui dit notre responsabilité humaine. N'éteignez pas l'esprit, l'esprit E majuscule, l'esprit de Dieu, dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens. J'aime citer cette épître parce qu'elle est le plus ancien écrit du Nouveau Testament, puisque les grandes épîtres de Paul ont été écrites avant les évangiles, et qu'elle est même le plus ancien de tous les écrits chrétiens jusqu'à ce jour. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Nous pouvons donc éteindre l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que Paul nous demande d'être collaborateurs, ouvriers avec Dieu. Il ne s'agit pas de se tourner vers le passé et vers une croix trop souvent associée à des doctrines assez scandaleuses. Nous parlons d'un Dieu cruel, d'un Dieu sanguinaire, d'un Dieu vengeur qui, pour apaiser sa colère et pour pardonner aux hommes, exige une rançon, c'est la doctrine de l'expiation, et veut que le sang coule, fût-ce le sang d'un innocent. Non, il ne suffit pas de se tourner vers la croix, mais porté par l'Esprit de Dieu dans le chantier du monde, de se tourner vers l'avenir où nous associerons un espoir et un vouloir. Croire, c'est vouloir, mais c'est vouloir avec passion. Et pour conclure, j'aimerais vous citer ces mots de Raphaël Picon. Dieu. Dieu est cette force qui, devant la croix, nous conduit ailleurs, vers la pierre roulée du tombeau, à la genèse d'une vie nouvelle, à construire encore et à nouveau, malgré tout. C'est une lutte héroïque contre la fascination du morbide, contre l'idée selon laquelle nous serions voués à la perte, à la mort, à la désolation. Amen.